Je voudrais commencer. Je suis comme tout le monde, j'ai conscience que des changements gigantesques sont en jeu avec le numérique. Et j'ai pris conscience de l'impact que tout ceci exerçait sur les sciences humaines et sociales à partir du moment où, dans cette fondation qui nous reçoit aujourd'hui, j'ai discuté avec des spécialistes, des chercheurs, des bibliothécaires, des éditeurs, des informaticiens, bref, dans tous les domaines de la vie de cette institution, intellectuelle ou des domaines où on soutient la recherche, c'était un enjeu qui était considérable. Et à l'époque, je me suis dit, il faut que je le dise, il faut dire que c'est considérable, parce que beaucoup de chercheurs, en tout cas en France, étaient très éloignés de ça, de prendre sérieusement en compte le numérique. Le maximum d'intérêt, c'était de savoir utiliser Google et d'envoyer des emails. Et donc j'ai publié un tout petit, c'était un gros article, puis un éditeur m'a dit non, on va faire un petit livre. Donc j'ai publié un petit livre, tout petit, qui s'appelle « L'impératif numérique » pour dire ça, pour dire aux sciences sociales, il faut savoir que nous entrons dans l'ère du numérique. Nous aussi, on est comme le reste des sociétés. Et quelques temps plus tard, un an ou deux plus tard, avec une collègue, une chercheuse que certains d'entre vous connaissez peut-être, Dana Diminescu, nous avons préparé un dossier d'une revue dont nous nous occupons, qui s'appelle Sociaux, et le titre était, du point de vue des sciences sociales, bien sûr, le tournant numérique et après. Autrement dit, le tournant est fait, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ou comment est-ce qu'il faut réfléchir? Alors, moi je suis de la vieille école, et on ne me changera pas beaucoup, donc j'utilise des modes de pensée, des modes de fonctionnement, qui doivent sembler archaïques aux jeunes générations, mais bon. Donc, j'ai de la peine, mais je sais qu'il faut s'installer au cœur de cette époque, de cette ère du numérique, sans hésiter, que ce soit pour les objets que nous étudions ou que ce soit pour notre façon à nous de travailler. Mais aussitôt, je dois ajouter quelque chose. C'est que cette nouvelle époque des sciences humaines et sociales, cette nouvelle ère, c'est la sortie de l'époque classique, mais tout n'est pas uniquement numérique dans cette sortie des sciences humaines et sociales classiques. J'avais écrit au début des années 90 un article dans une revue de sociologie, dans les cahiers internationaux de sociologie, un article où je disais « Nous sortons de la sociologie classique, nous entrons dans autre chose ». Et je ne disais pas un mot du numérique. Ça ne m'intéressait pas, j'en étais très éloigné. Si je devais faire le même article aujourd'hui, je dirais « Nous en sortons » et un des éléments importants, mais pas le seul, c'est tout ce qui touche au numérique. Et aujourd'hui, on dit les sciences sociales sont post-classiques, ou bien encore, c'est le titre d'ailleurs d'un autre dossier qui sort en ce moment de cette revue, sociaux, elles sont post-occidentales, enfin elles sont post-beaucoup de choses, les sciences sociales. Et donc le numérique est un des éléments qui permet de définir cette entrée dans une nouvelle époque autrement que uniquement en disant post. On sait mieux définir ce que nous avons quand on utilise des mots où il n'y a pas post, néo, enfin vous voyez ce genre de préfixe. Mais si le numérique n'est pas seul en cause dans cette mutation, dans ce passage à quelque chose de nouveau, alors il faut peut-être réfléchir un instant, ce sera le début de cet exposé, il faut réfléchir un instant sur le lien ou sur ce qui se passe entre les différentes composantes de ce changement, le numérique et d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Alors je vais être extrêmement rapide, superficiel, juste pour brosser le cadre de la réflexion que je vous propose, il me semble qu'on peut dire que les sciences humaines sociales classiques ont connu leur apogée dans les années 50 et 60. Il y avait quelques grands paradigmes, on essayait même parfois de les articuler. La tentative la plus ambitieuse d'articulation ou de synthèse, c'est certainement celle de Talcott Parsons, un auteur que plus personne ne lit, je ne connais personne, qui ait lu 10 lignes de Parsons, sauf s'il y a vraiment été obligé pour une raison très précise. Et Parsons voulait réconcilier les grands penseurs de la sociologie classique, à commencer par Durkheim et Weber. Mais tout ça s'est effondré, pour toutes sortes de raisons. Ce fut la décomposition de ce qu'on appelait le fonctionnalisme, c'est-à-dire Parsons et d'autres, bien sûr. Ce fut aussi ensuite la montée et puis l'effondrement du structuralisme, dans ses variantes marxistes, et non marxistes. Il y avait des marxistes très structuralistes comme Althusser, et puis Michel Foucault n'était pas marxiste, mais le premier Foucault était structuraliste. Et à partir des années 80, on a vécu essentiellement deux choses dans les sciences sociales, de constructif ou de reconstructif. D'une part, les théories qu'on peut appeler interactionnistes, c'est toute une famille de pensées, qui s'intéressent, pour le dire simplement, à étudier des interactions, qui pensent que le social, c'est les interactions. Alors, il y a toutes sortes de courants, je suis très très rapide. Et d'autre part, la sociologie, qui est plutôt celle de ma famille de pensée, qui s'intéresse, je vais le dire très très rapidement, à l'idée de monter en puissance du thème du sujet. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, regardez ce que les gens écrivent sur la religion. On choisit sa religion, c'est un choix subjectif. Si vous regardez ce qu'on écrit sur le terrorisme, j'étais ce matin coincé à une réunion, c'est pour ça que je ne peux pas être avec vous, sur ces questions qu'on appelle de radicalisation terroriste. La radicalisation, ce sont des processus de désubjectivation et de resubjectivation, etc. Bon. Donc le sujet est partout aujourd'hui, et ça c'est nouveau par rapport aux années 60 ou 70. Et puis ce qui a aussi semblé beaucoup changer, c'est l'épuisement de l'idée d'un conflit structurel dans les sociétés, ou entre sociétés. Il n'y a plus la guerre froide, alors il y a peut-être le choc des civilisations, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et il n'y a plus, dans les sociétés industrielles, qui sont devenues post-industrielles, il n'y a plus le mouvement ouvrier, la lutte des classes, comme on pouvait dire. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique cette mutation, cette disparition d'un conflit structurel ou de conflits structurels, dans lesquels des acteurs se reconnaissent comme étant en conflit, c'est peut-être ce qui explique la montée en puissance dans un pays comme la France d'intellectuels publics qui tirent les uns vers un gauchisme extrême et les autres vers la réaction la plus extrême qui soit également. Alors, ce qui m'intéresse dans cette évolution, c'est un point très limité ou deux, c'est par rapport au numérique. C'est la montée de l'individualisme dans la vie sociale comme dans les paradigmes qui pensent le social, les deux. L'individualisme, et là, je dirais qu'il y a deux principaux paradigmes ou deux entrées principales quand on parle d'individualisme. Soit une entrée qui consiste à dire les individus sont des êtres rationnels qui calculent, qui ont des stratégies, qui d'une manière ou d'une autre définissent leurs intérêts et ensuite se donnent les moyens, ou essayent en tout cas d'y parvenir. C'est l'homo sociologicus, qui est un petit peu la même chose que l'homo economicus, si vous voulez. Et puis l'autre point de vue, c'est celui que je viens d'évoquer, du sujet qui essaye de maîtriser son expérience, de construire son existence. Alors pourquoi je rappelle tout ça? Parce que je pense que le numérique est tout à fait au cœur ou concerné par ces évolutions. Ce qui veut dire tout de suite une chose très importante, c'est que si on essaie de mettre en relation des catégories intellectuelles, les catégories habituelles ou renouvelées des sciences sociales avec le numérique, alors ça veut dire qu'on considère que le numérique ne nous met pas à l'écart de la vie intellectuelle, que le numérique ne détruit pas entièrement les sciences humaines et sociales. Je ne sais pas si on a cité cet auteur depuis que vous avez commencé cette rencontre, mais enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez un article très célèbre de Chris Anderson, hein, qui est quelqu'un qui dit « les sciences sociales, c'est fini, quoi, on n'en a plus besoin, elles sont mortes, on les a détruites, nous, les gens du numérique ». Je le cite en anglais, oui, je fais quand même des efforts, je cite Anderson en anglais. « We can stop looking for models. We can analyze data without hypotheses about what it might show. We can throw the numbers into the biggest computing clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find patterns where science cannot. » Autrement dit, le numérique, c'est la fin des sciences sociales. Alors, si ce que je vous dis est juste, c'est-à-dire si l'introduction et la montée en puissance du numérique pour nous est importante, dans un contexte de changement, de paradigme, etc., alors c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter les propositions de Chris Anderson. Je voudrais d'ailleurs ajouter une chose. Il faut savoir quand même qu'on peut faire à Chris Anderson exactement la même réponse que celles qui sont faites depuis très longtemps aux chercheurs qui croient qu'on peut faire de la recherche purement empirique. Un chercheur qui vous dit, moi, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de théorie, je vais chercher les faits et rien d'autre. C'est un chercheur qui oublie que les données sont construites, que les catégories sont préétablies, qu'il y a des sélections qui se font d'une manière ou d'une autre, il y a ce que l'on retient et ce que l'on ne retient pas. Et c'est pareil, je pense, avec tout ce qui est numérisé. Il faut bien que des gens choisissent de numériser ceci ou cela, qu'il faut bien s'interroger sur les catégories qui sont à l'œuvre, et c'est bien des humains qui fabriquent les algorithmes, etc. Mais aussitôt, il y a une question qui se pose pour moi, qui est la suivante. C'est que d'habitude, dans les sciences sociales plutôt classiques, les données, elles sont produites par des humains, certes, ce sont des données sociales qu'on va ramasser, mais une fois qu'on les a ramassées, on les a ramassées. On peut certes penser qu'elles se transforment dans des interactions, mais enfin, quand même, il y a une certaine, si j'ose dire, stabilité des corpus. Et d'ailleurs, on demande parfois à des chercheurs, quel est votre corpus ? Là, on est dans une toute autre configuration avec le numérique. On est dans une toute autre configuration, d'une part, enfin, essentiellement, parce que les données qui sont celles sur lesquelles va s'effectuer la recherche lorsqu'elle s'intéresse au numérique et lorsqu'elle utilise des technologies numériques, ces données-là sont produites de façon incessante, permanente, sans qu'on puisse jamais, facilement en tout cas, définir des limites, sans qu'on puisse dire que l'espace que constitue notre corpus a été déterminé une bonne fois pour toutes. En venant ici, j'ai téléphoné. J'ai utilisé peut-être ma carte de métro, j'ai fait un achat avec une carte de crédit, et puis chez moi, avant de partir, j'ai ouvert mon réfrigérateur, je l'ai refermé, je l'ai réouvert, etc. Qu'il y ait ou non des capteurs, parce qu'il y a parfois des capteurs, il n'y en a pas partout encore, mais peu importe, un très grand nombre de mes comportements sont des données, et il y en a évidemment sans arrêt qui s'ajoutent, c'est un flux permanent. Et donc pour penser le social, je sais que je vais devoir, c'est un premier point, m'intéresser à des données qui ne sont pas nécessairement un ensemble défini, stabilisé, mais au contraire quelque chose en mouvement. Et j'arrive à une deuxième remarque qui ne vaut pas pour tout, bien sûr, mais qui vaut pour beaucoup de choses qui sont pour moi parmi les plus intéressantes. C'est que de plus en plus, on va utiliser des données qui résultent de millions de connaissances, d'éléments de connaissances, pour mieux connaître un individu tout seul. Je m'explique, vous avez des banques de données, des bases de données, vous avez des quantités énormes d'informations disponibles qui, lorsqu'elles sont bien utilisées et mises au regard d'informations qui comportent un individu singulier, vont permettre de dire quelque chose sur cet individu singulier. Autrement dit, aujourd'hui, c'est une deuxième caractéristique, au lieu de chercher à faire des moyennes, je connais 10 000 personnes, elles ont tel revenu, etc., et donc elles vont se comporter de telle et telle manière. Non, aujourd'hui, je connais des millions de personnes, des millions d'actes d'un type ou d'un autre, et je vous connais, vous, personnellement, parce que j'ai un certain nombre d'informations sur vous, personne particulière. Eh bien, grâce à la mise en regard de ces deux choses, je vais pouvoir prévoir ou prédire, peut-être, soit vos comportements, soit ce qui va vous arriver. Je vais, par exemple, savoir que très vraisemblablement, dans les 3 mois qui viennent, vous allez changer de voiture et que vous allez peut-être en acheter une plus grosse. Et puis, je vais aussi peut-être savoir qu'il est très possible que vos enfants développent telle maladie parce que compte tenu de votre patrimoine génétique, ce genre de choses. Et donc, les big data permettent de connaître des individus et de prévoir un certain nombre de choses sur la base de millions ou de milliards d'informations appliquées ou enfin, qui permettent de mieux lire un cas individuel. Donc vous pensez que ça va très bien avec la montée de l'individualisme dont je viens de vous parler il y a un instant. Alors si on réfléchit un peu à cette connaissance-là, ce type de connaissance que j'évoque, ça peut poser des problèmes bien intéressants. D'abord, dans certains cas, ça peut naturaliser les êtres humains, au lieu de les socialiser, si je peux dire. Ça interdit de les penser comme des êtres sociaux. Si je vous dis, je connais ton patrimoine génétique, et je sais qu'il est fort probable que tu vas développer un cancer de tel type, Et d'ailleurs, si tu es intelligent, tu ferais bien de faire telle opération chirurgicale qui t'évitera, en bonne probabilité, d'avoir ce cancer. Je ne suis pas dans du social. Je suis dans du naturel. Je suis dans la nature de votre patrimoine génétique. Je ne vous définis pas comme un être social. Je vous définis comme un être de nature. Et je vous définis de manière prédictive. Mais si je dis, compte tenu de ce que je sais de tous les gens qui ont commis des crimes sexuels, ce genre de choses, je sais que vous qui avez déjà telle et telle caractéristique, vous allez en commettre à nouveau. Là, je vais définir des comportements sociaux et je vais les définir à partir de ce type de démarche. Je vais introduire une détermination qui échappe complètement à votre volonté. Vous n'avez pas besoin de me dire que vous voulez ou que vous ne voulez pas, que vous êtes un individu responsable. Non, vous allez vraisemblablement commettre un crime sexuel, et donc il vaut mieux que je vous laisse en prison. Alors vous avez terminé la peine pour laquelle vous aviez été condamné pour l'acte criminel précédent. Autrement dit, vous voyez, on introduit des déterminismes qui sont psychologisants, si j'ose dire, enfin en tout cas qui s'intéressent à des caractéristiques quand même bien singulières de l'être humain, ou qui sont carrément naturalisantes. Alors évidemment, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un chercheur de la vieille école, tout ça m'effraie un peu, tout ça m'effraie d'autant plus que ce que j'aime le plus dans les sciences sociales, comme chercheur, mais aussi comme lecteur ou comme consommateur de sciences sociales, moi j'aime bien quand elle me donne à toucher l'altérité, quand elle me donne à toucher les relations humaines, quand elle me donne à toucher l'expérience vécue. Je ne suis pas sûr que les modes d'approche dont je viens de vous parler le permettent. J'imagine mal, peut-être que je me trompe, qu'un jour ou l'autre, dans la belle collection, une des plus belles collections de sciences sociales, qui s'appelle « Terre humaine », j'imagine mal un jour lire un ouvrage qui devra tout aux technologies du numérique. Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a quand même, sans faire du tout de l'anti-numérique, il y a quand même à se poser la question de qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd, ou qu'est-ce qu'on risque de perdre du point de vue des sciences humaines et sociales, de leurs objets, de leurs intérêts et de leurs orientations. Est-ce que le numérique ne va pas pousser à faire des recherches qui nous priveront? Est-ce que l'école de Chicago aurait été possible aux États-Unis avec le numérique? Ou au contraire, est-ce qu'elle aurait été aussi violemment combattue qu'elle l'a été par le fonctionnalisme parsonien? Est-ce que Street Corner Society, qui est un livre magnifique, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissez, c'est-à-dire quelqu'un, un jeune chercheur, un étudiant qui faisait son doctorat, qui s'est mis pendant un an dans une chambre de bonne dans un quartier italien de Boston et qui a observé ce qui se passait, qui s'est fait des copains, et qui a fait un des plus beaux livres de sociologie que je connaisse, ou de sciences sociales que je connaisse. Est-ce que ça, aujourd'hui, le numérique, au mieux, ne serait-il pas indifférent à ça? Et peut-être, avec l'idée que si le numérique dans les sciences sociales a une emprise trop forte, ravageur pour ça. Bon. Et puis, il y a encore autre chose. Je pense que si on accepte cette idée qui est très forte, qu'aujourd'hui les sciences sociales avec le numérique deviennent prédictives, alors ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait des prédictions? Qui va maîtriser la capacité prédictive de ces outils? Je pense en particulier en politique pénale, je viens de vous le dire avec mon exemple du criminel en puissance, enfin quand même, qui va décider qu'on garde en prison quelqu'un parce qu'il est potentiellement criminel? Quand même des questions énormes, mais c'est vrai aussi dans bien d'autres domaines, par exemple en matière de santé, d'assurance. Pourquoi est-ce que je vais faire payer la même chose à deux personnes pour s'assurer en matière de conduite automobile si je sais que l'une d'entre elles est potentiellement plus dangereuse au volant alors même qu'elle n'a pas eu d'accident jusqu'ici? Ouais, des choses comme ça. Donc ça va lever une sorte de... on dit parfois que ça va lever le voile d'ignorance qui caractérisait jusqu'ici les assurances. Et donc, j'ai envie de dire, où est le lien social, où est le rapport social, où sont toutes ces dimensions avec ce recours au big data et aux algorithmes. Je voudrais maintenant avancer encore un tout petit peu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il me semble que la sociologie classique s'est nourrie en partie, pas seulement, mais en nourrie de l'idée d'une certaine centralité de la conflictualité. avec les formules les plus raides étant évidemment celles qui parlaient de conflits de classe, de lutte des classes. Ou, moi j'appartiens à une école qui parlait de mouvements sociaux, avec Touraine. Enfin, quand on disait mouvement ouvrier avec Touraine, c'était pas très différent de quand on disait lutte des classes avec certains courants marxistes. Eh bien, je me suis dit, est-ce que dans ce monde où on réfléchit au déclin des vieilles conflictualités, mais peut-être aussi à la naissance de nouvelles conflictualités, est-ce que le numérique ne nous fait pas rentrer de plain-pied dans des nouvelles conflictualités? Et là, ce qui m'a intéressé le plus, c'est une idée un peu compliquée, donc je vais essayer de la dire clairement. Clairement. C'est que le numérique, c'est à la fois, je vais essayer de vous le montrer, le numérique, c'est à la fois un élément des nouvelles formes de conflictualité, et c'est en même temps un élément de conflictualité à l'intérieur même des sciences sociales. C'est les deux en même temps. Et parfois, les deux se chevauchent. Et que là, les choses, me semble-t-il, se compliquent un peu. Alors, si je vous dis qu'il est normal pour un sociologue de poser la question des nouvelles formes de conflictualité qu'accompagne, que véhicule le numérique, je pense que c'est une idée assez facile à comprendre. Si vous voulez, je peux vous en donner deux exemples très différents. Le premier exemple, c'est le fait que, avec le numérique, les contestations, les conflits sociaux prennent une forme différente de celle qu'elles revêtaient dans le passé. Il suffit de regarder tout ce qu'on peut dire sur tous ces nouveaux mouvements qu'il y a eu, les révolutions musulmanes ou arabes, la révolution de Jasmin en Tunisie, toutes ces choses-là, ou encore les Occupy Wall Street, Indignados. Tous ces mouvements utilisent énormément le numérique, ne serait-ce que pour se réunir. Et puis, pour prendre un autre exemple de conflictualité, nous avons tous vu monter en puissance en une vingtaine d'années les entreprises comme Google, Facebook, etc. Ce sont des pouvoirs. Ce sont des entreprises qui exercent une certaine forme de domination, qui savent ce qu'elles veulent, qui renforcent leur emprise sur la vie collective, qui essayent de façonner les besoins en fonction de leurs propres orientations. Qui veulent exercer une emprise culturelle, qui veulent même nous dire ce qu'est selon elles la démocratie. Moi, j'ai lu des déclarations très intéressantes, je crois que c'est le patron de Google. Enfin, nous, on sait ce que c'est que la démocratie, on est certainement au cœur de l'invention de la démocratie nouvelle. Bah, on peut penser que c'est pas tout à fait normal que ce soit eux qui définissent la démocratie. Bref, on a là, j'ai pris deux exemples très différents, des acteurs contestataires d'un côté, des acteurs de pouvoir d'un autre côté. On peut comme ça réfléchir au fait que le numérique accompagne, ou fait naître, ou suscite, ou génère des formes de conflictualité nouvelles. Peut-être aussi d'ailleurs qu'il peut redonner vie à des formes de conflictualité plus anciennes. Mais à l'intérieur même de nos disciplines, à l'intérieur même des sciences sociales, le numérique peut introduire des nouveaux clivages, des nouveaux rapports de domination et peut-être des nouvelles formes de conflits. Nous ne sommes pas égaux face au numérique. C'est assez évident, je crois. On parle parfois d'ailleurs de fractures numériques en général. On pourrait dire que ce sont des fractures qui existent peut-être aussi dans les sciences sociales. On peut penser, par exemple, que des universités bien dotées, que des centres de recherche liés à des grosses bases de données, parce qu'ils ont des liens privilégiés avec la puissance publique, ou qu'ont des moyens formidables pour installer des centres de calcul, choses comme ça, eh bien, sont bien supérieurs à ce que peut faire la recherche dans des universités moins riches. On peut penser en plus, et là c'est un autre point très important, que si on ne voit pas ça, on risque d'accepter l'idée que les sciences sociales perdent leur esprit critique. L'idée que le progrès, la modernisation, ça passe par le numérique et que c'est un progrès général pour les sciences sociales, peut-être, sûrement même, je défends cette idée. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que tout le monde ne se situe pas de la même façon dans ce progrès. Et je donne un exemple extrême auquel j'ai pensé. Je suis convaincu que si toutes ces entreprises, Microsoft, Google, Facebook, etc., si toutes ces grandes entreprises souhaite développer de la recherche en sciences sociales vraiment. Elles ont les données, les machines, les algorithmes, la présence mondiale et locale en même temps, et elles ont en plus les moyens plus que n'importe qui d'autre, de se payer les meilleurs chercheurs, les meilleures équipes, et de leur donner des conditions de travail dont on ne peut que rêver, évidemment. Donc imaginez que ça se passe comme ça. Donc imaginez que la recherche soit financée, etc., depuis ces grandes entreprises, ou indirectement, sous leur emprise, sous leur contrôle. Est-ce que nous garderons, est-ce que la recherche gardera son sens critique? Est-ce qu'elle gardera sa capacité à comprendre, à voir ce qu'on ne voit pas, à entendre ce qu'on n'entend pas, à voir les rapports de domination lorsqu'ils sont un peu plus ou moins masqués, etc. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème qui est que le numérique introduit dans l'espace de ce que nous faisons des nouveaux rapports de domination, ou de différence en tout cas, ou d'inégalité, qui peuvent être parfois conflictuels. Et je pense qu'il y a là quelque chose à prendre en compte. Maintenant, je voudrais ajouter autre chose qui est caractéristique de cette époque actuelle et qui est liée à tout ce que je viens d'évoquer. D'un côté, la société se transforme avec le numérique. D'un autre côté, la recherche en sciences sociales se transforme avec le numérique. Et je pense qu'il y aura de plus en plus des situations où, en même temps, la recherche étudiera ce qui change dans le social avec le numérique et en même temps s'appuiera sur le numérique pour étudier ce qui change dans les sciences sociales avec le numérique. Je vous en donne un exemple parce que j'en parlais dans mon petit livre « L'impératif numérique » et le livre sort en ce moment qui s'appelle « School Shooting ». Alors je vous en donne un exemple parce que je le trouve très intéressant. Et la personne qui a fait ce travail aurait dû, à mon sens, faire un pas de plus que je vais vous indiquer. Voilà, c'est une jeune chercheuse qui a étudié ces phénomènes de school shooting sur YouTube. Tout simplement parce qu'elle s'est aperçue que sur YouTube, il y avait un très grand nombre de personnes, d'internautes, qui postaient des prises de position pour ou contre le school shooting, ou en tout cas pour expliquer ce qu'est le school shooting. C'est-à-dire, un school shooting, c'est un jeune, qui, ou moins jeune, qui rentre dans une école et qui tue tous les élèves et les enseignants qu'il rencontre. Il y en a eu encore eu un il y a quelques jours aux États-Unis, dans l'Oregon. Et donc, il y a non seulement donc, des gens qui discutent du school shooting et dont certains disent qu'il faut le comprendre, mais il y a en plus des gens qui vont faire un school shooting et qui postent avant soit des éléments qui laissent à donner, qui permettent quand on saura qu'il est passé à l'acte, qu'on comprendra mieux, soit même des éléments qu'il poste avant même, au moment même où il va passer à l'acte, pour laisser sa trace dans l'histoire. Eh bien, si vous voulez comprendre le passage à l'acte aujourd'hui, l'individualisme, le rapport aux médias, un très grand nombre, le rapport aux réseaux sociaux, etc., lisez ce livre donc, de Nathalie Patton, parce qu'il vous explique ce qu'est ce phénomène qui doit donc énormément au numérique. Vous ne comprenez pas le school shooting si vous ne voyez pas que ces gens-là, les gens qui passent à l'acte, passent une grande partie de leur temps sur Internet, sur leur ordinateur, ou en fonction de ce qu'ils veulent donner à voir via le numérique. D'un côté. Et quand elle a passé sa thèse, j'étais dans son jury, je lui ai dit, c'est superbe ce que vous avez fait, c'est vraiment passionnant, c'est très utile. Vous auriez pu faire un pas de plus. Vous auriez pu vous-même entrer sur ces plateformes et entrer en interactivité avec ces gens qui défendent ou qui essayent d'expliquer le school shooting. Autrement dit, vous auriez peut-être pu, c'était ça l'idée que j'ai, je pense qu'il y aura de plus en plus de choses comme ça, entrer dans un dispositif de ce type pour, par exemple, lancer des hypothèses, entrer en débat, questionner, faire un travail de type sociologique en utilisant le même support que celui qui vous apporte les données que vous avez utilisées pour votre thèse. Et donc, il me semble qu'il faut avoir ça en tête lorsqu'on réfléchit à la façon dont les choses se transforment pour les sciences sociales. Ce qui me conduit au point suivant de cet exposé, qui est que nous devons aussi bien voir que cette nouvelle époque, c'est celle où des nouvelles formes de coopération entre chercheurs se mettent en place. Ce sont des choses qui sont très documentées, coopération sur le web, web 2, travail collectif, avec plusieurs remarques. D'abord, ce n'est plus les mêmes acteurs qui interviennent dans ces façons de faire la recherche. Deuxièmement, non seulement ce n'est plus les mêmes acteurs, mais les hiérarchies de statut se transforment. Les informaticiens, les designers, les ingénieurs n'ont pas le même rôle que dans les laboratoires classiques de sciences sociales. Et puis, non seulement la production des connaissances se transforme, mais aussi la diffusion. Il y a en ce moment des débats énormes sur l'open access pour les sciences sociales en France. C'est la guerre entre deux groupes, les uns étant pour l'open access et les autres disant que ça va ruiner l'édition. Enfin, c'est très chaud, j'ai vu, je le dis à Françoise Thibault qui connaît bien tout ça, mais en ce moment, c'est très violent, très, 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 très violent. Et donc, du coup, la figure classique du chercheur, vous savez, le chercheur un peu qui gardait un petit côté quand même, professeur, mandarin ou intellectuel sartrien, ça s'affaiblit beaucoup. Et tout ça pose beaucoup de questions. Parmi les questions qui sont posées, et que le numérique nous oblige à poser avec beaucoup plus d'acuité que s'il n'existait pas, je crois qu'il y a les questions que posent les conditions institutionnelles de la recherche en sciences sociales. Alors c'est moins passionnant que discuter d'idées, bien sûr, mais quand même, est-ce que nos institutions permettent que des équipes coopèrent comme je viens de l'indiquer? Est-ce qu'elles permettent à des chercheurs de faire des carrières aussi normalement que quand il n'y avait pas le numérique et ses façons de travailler? C'est pas évident. Et donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi des conflits entre ceux qui veulent maintenir le vieux fonctionnement des institutions et qui ont le pouvoir, essentiellement, en tout cas dans l'université, et ceux qui, par leur pratique, montrent qu'il faut d'autres conditions institutionnelles pour produire et pour diffuser des connaissances. C'est pour ça que je vous dis bienvenue à la FMSH, parce que Françoise Thibault, moi-même et quelques-uns, on est bien content d'être dans une institution qui n'est pas au cœur des modes de fonctionnement universitaire classiques. Et puis, ce que je suis en train d'évoquer là, du coup, débouche sur des questions éthiques. Tout le monde le voit bien, les universités, enfin les lieux de production de connaissances, se dotent de plus en plus de codes, de normes, de commissions, de comités d'éthique qui disent ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça devient même parfois un peu terrifiant, en tout cas pour un chercheur français qui n'est pas dans la culture protestante anglo-saxonne dominante. Alors, par exemple, avant-hier, je vous donne des exemples, deux exemples que j'ai connus. Avant-hier, un jeune chercheur vient me demander mon avis parce qu'il faisait des recherches sur des questions que je connaissais un peu. Et après m'avoir demandé mon avis, m'avoir demandé la permission d'enregistrer notre conversation, il me fait signer une feuille, un document officiel de son université canadienne, comme quoi je l'autorisais à utiliser, etc. Et que je savais bien que c'était un entretien en sciences sociales. Enfin, et aujourd'hui, un anthropologue qui veut interroger des Esquimaux ou des Inuits, eh ben, il doit leur faire signer des papiers comme quoi ils acceptent l'entretien. Bon. Et puis, je me souviens aussi, il y a beaucoup plus longtemps, mais je dis tout ça parce que ça a une importance avec le numérique. Je me souviens, il y a beaucoup plus longtemps déjà, j'avais eu un financement pour faire de la recherche, pas seulement en France, mais un petit peu ailleurs si je voulais. Et j'étais allé au Royaume-Uni pour étudier, pour comparer ce qui se passait dans les banlieues de Birmingham avec ce qui se passait dans des banlieues parisiennes. Et donc, je fais équipe avec une collègue, une amie de l'université de Warwick. J'amenais l'argent. Donc, je me disais, tout va bien. Mais l'argent devait transiter par son université. Et l'université m'a dit, ah, mais non, c'est pas possible. Vous allez travailler avec des jeunes Antillais. Je dis, oui. Eh bien, il faut qu'il y ait au moins un, et même il vaudrait mieux une Antillaise dans votre équipe. Et donc, on m'a forcé à prendre quelqu'un dans mon équipe de recherche. Pas du tout parce que j'en avais besoin pour la recherche, mais parce que les règles éthiques voulaient qu'il y ait quelqu'un de ce groupe. Eh bien, il me semble qu'avec le numérique, cette question des bonnes pratiques va devenir bien plus compliquée et bien plus cruciale. Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, il y en a peut-être parmi vous qui en ont, mais vous comprenez qui signe quoi, par exemple. Qui signe quoi quand on a fait une recherche, qu'on a travaillé de manière très collaboratrice avec toutes sortes d'autres chercheurs, et puis avec des gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément seulement des chercheurs. Qui signe quoi? Qui est propriétaire? Est-ce qu'il y a du copyright pour ce genre de recherche? On va rentrer dans des questions de ce genre qui, moi semble-t-il, seront de plus en plus aiguës, et donc qui ont été introduites sans le numérique, mais qui, me semble-t-il, vont devenir bien plus aiguës. Autre point, j'en ai bientôt fini, autre point encore que je voudrais évoquer. On dit souvent que les sciences sociales aujourd'hui n'ont d'avenir que si elles sont internationales et pluridisciplinaires. Alors je le laisse de côté, l'internationalisation, Sauf à dire que le numérique permet évidemment de fonctionner à l'échelle planétaire sans le moindre problème. Par contre, sur la pluridisciplinarité, une des choses qu'offre le numérique pour les chercheurs, c'est la capacité de travailler avec toutes sortes d'autres personnes concernées par le sujet sur lequel on travaille. Mais ici, je crois qu'il faudrait qu'on ait des réflexions plus sérieuses sur ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Pour moi, la pluridisciplinarité, ce n'est pas la mort des disciplines ou la négation des disciplines. C'est des gens qui sont de différentes disciplines et qui étudient ensemble un même problème au meilleur niveau, tous, et avec la capacité de s'entendre ou de se comprendre. Ce n'est pas la peine de mettre ensemble un sociologue, un biologiste, un informaticien, un ingénieur, un anthropologue, etc., qui sont tous excellents si le sociologue ne comprend rien à la biologie, à l'informatique, etc. Et si l'informaticien, le biologiste, sont obligés d'abaisser leur niveau d'exigence pour se faire comprendre, etc. Et donc, je pense que c'est ça la pluridisciplinarité. Or, avec le numérique, avec Internet, avec tous ces outils, il arrive qu'on ne fasse pas suffisamment attention au fait que les compétences qui sont mobilisées ne sont pas toutes au meilleur niveau. Il y a des débats chez les historiens en particulier à propos de l'histoire, des amateurs en histoire. L'histoire, c'est une discipline, elle a ses méthodes, elle a ses façons de travailler. Puis vous avez aussi beaucoup d'historiens amateurs partout dans le monde. Et donc, si vous travaillez sur un sujet, il est possible que vous travailliez de manière collaboratrice avec des amateurs. Mais est-ce que le niveau de plus. Et pas forcément des historiens. Peut-être le curé du coin qui a gardé des archives, ou quelqu'un qui a trouvé dans son grenier des archives et qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui a des éléments, et qui veut participer à la recherche. Et qu'au nom d'une certaine vision démocratique, vous ne voulez pas du tout écarter et qui va vous apporter des connaissances. Mais je crois qu'il va falloir aussi se poser ce genre de questions. Comment est-ce que l'on s'assure que l'on fonctionne de manière éventuellement pluridisciplinaire, mais même si c'est monodisciplinaire d'ailleurs, au meilleur niveau, à partir du moment où on mobilise des outils qui font entrer dans la production de connaissances des gens extrêmement diversifiés. Alors, j'en ai presque fini, j'ai encore une ou deux remarques. Il me semble que la sortie des sciences humaines et sociales classiques dans les années 60, 70, s'est faite avec un moment, comment dirais-je, une poussée de fièvre hypercritique. Non seulement les sciences sociales, ce qui est leur fonction, étaient critiques, mais elles devenaient hypercritiques, c'est-à-dire qu'elles passaient leur temps à dénoncer et à soupçonner. Ça devenait même un sport de combat, a dit l'un des sociologues de cette époque. Au début, le numérique a eu un petit côté aussi sport de combat. J'ai trouvé que l'introduction du numérique dans les sciences sociales fait apparaître quelque chose d'assez intéressant. Il y avait d'un côté ce que j'appellerais les nouveaux Saint-Simoniens. C'est-à-dire, de la même façon que les Saint-Simoniens étaient passionnés par l'industrie, on rentrait dans un nouveau monde, etc. Et donc, il y avait voilà, l'idée qu'on rentrait vraiment dans une nouvelle ère. Donc, il y a eu un petit côté pionnier, si vous voulez, qui pouvait même prendre un petit côté sectaire, parce que quand on est les premiers à découvrir le nouveau monde, on a le sentiment que les autres ne comprennent pas, ne veulent pas vous suivre. Bon. Donc il y a eu un côté. Et puis d'un autre côté, à la même époque, donc les années, pour moi, 90, mais peut-être avant ailleurs, sont apparus des discours extrêmement hostiles au numérique, mais totalement hostiles. Donc il y avait d'un côté les Saint-Simoniens, plus ou moins sectaires, qui disaient qu'il faut faire avancer tout ça dans les sciences sociales. Et puis il y avait d'un autre côté ceux qui disaient, de toute façon, ça ne va pas durer. Internet, Dominique Volton, qui s'est trompé, il faut le dire, qui nous a parlé de la fin d'Internet, c'est-à-dire quand même un chercheur en sciences de la communication, parce qu'il ne voulait pas y croire, je suppose. Mais des gens qui disaient, c'est pas que je veux pas y croire, forcément, mais ça ne peut être que dangereux, on n'utilisera plus son cerveau, on ne pensera plus, enfin, etc. Et des gens parfois un peu nuancés quand même. Si vous avez lu le livre de Raphaël et Simone, il est quelqu'un de très nuancé, très élaboré, mais enfin, il avait un petit côté comme ça, hein, son livre sur la toile. Bon. Ça, c'est le début. Mais je crois qu'on est au-delà de tout ça. On rentre dans autre chose. Mais est-ce que pour autant, nous devons abandonner la réflexion sur les limites ou ce qu'apporte et ce que ne peut pas apporter le numérique? je relisais pour préparer cet exposé l'article dans ce numéro de Sociaux de Dominique Boulier, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez, qui est un des vraiment, et pas seulement en France, un des tout meilleurs chercheurs sur ces questions. Et lui, il est très intéressé par l'idée de traces. En fait, les sciences sociales vont étudier, dit-il, des traces. Voilà ce qu'il dit. La vie ordinaire commence à se peupler d'échanges sans contact, de puces RFID, je ne sais pas ce que c'est que des puces RFID, mais enfin, on me l'expliquera, et d'autres géolocalisations automatiques qui dépendent non plus des personnes, mais des objets eux-mêmes. Il ne sera plus possible de renvoyer à des personnes, à des entités sociales, au sens des sciences sociales, il ne dit pas classique, il dit de première et deuxième génération. Et donc, oui, c'est vrai, nous laissons, je le disais tout à l'heure, des traces, tout le temps. Et donc, les sciences sociales peuvent étudier des traces, et peut-être que Dominique Boulier a raison à certains égards. Nous allons perdre, nous, les sciences sociales, si nous suivons ce qu'il nous propose, si nous nous mettons à étudier avant tout des traces, nous allons perdre la connaissance je ne dis même pas des acteurs, j'ai envie de dire, des individus ou des groupes sociaux. Mais ce qui me frappe, et je reviens à mon exemple de tout à l'heure des mouvements sociaux, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, oui, nous laissons des traces sans arrêt, mais cela ne nous empêche pas de savoir que les choses importantes ne se réduisent pas aux traces que nous laissons. Et j'en donne juste cet exemple, justement, du numérique tel qu'il est utilisé par ces mouvements sociaux. Quand je vous parle de toutes ces luttes, aussi bien les mouvements qu'il y a eu dans ces révolutions dans ce monde arabo-musulman, arabe ou et musulman, ou que ces luttes, indignados, etc., quand je veux les désigner, très souvent, je m'aperçois que je les désigne par l'endroit où les gens se réunissent. Je vous dis la place Tahrir, le parc Gezi, la place Maïden, Wall Street, la place de Catalogne, etc. Autrement dit, quand je m'intéresse à ces mouvements, je sais que la mobilisation était impensable sans Internet, sans les réseaux sociaux, sans les téléphones mobiles, etc. Je le sais. Mais je sais aussi que si je veux y comprendre quelque chose, il faut que j'aille faire un tour sur le terrain ou que j'écoute ceux qui sont allés sur le terrain, qui ont passé du temps avec les acteurs, qui ont partagé éventuellement leur expérience, qui les ont interviewés. Il y a différentes façons. Bon, autrement dit, on est en plein dans l'ère numérique, ça j'en suis convaincu. Cela modifie, tout le monde le dit, nos objets, nos questionnements, nos paradigmes, bien entendu. Cela ne détruit pas forcément ou nécessairement la nécessité de continuer aussi à faire des sciences sociales avec des outils peut-être un peu plus classiques. Cela ne nous interdit pas de refuser l'idée qu'il y a des déterminismes technologiques, j'en ai évoqué tout à l'heure. Bref, je pense que nous devons éviter les naïvetés, nous devons éviter les facilités, nous devons questionner le numérique, nous devons éventuellement le questionner avec les outils qu'il nous offre. Mais nous devons garder notre sens critique et ne pas nous laisser et faire sa place au numérique sans se laisser envahir complètement par la pensée numérique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est des propos de non-spécialistes. Merci.
Merci beaucoup. We have about 15 minutes for the discussion. Maurizio.
Pour venir dans la direction de votre exposé, c'est-à-dire comment utiliser le numérique sans être, colonisé par le numérique. D'abord, ça n'a rien à faire, mais les anecdotes. Vous avez évoqué ce sociologue qui prédictait la disparition du web. Il y a un cas aussi intéressant en Italie d'un sémiologue qui en 2000 a écrit un livre où il prédictait la disparition du portable, du téléphone portable, disant que comme n'était plus un status symbole, personne n'aurait plus utilisé le portable. Donc là aussi, il faudrait faire la liste de ces prévisions. Non, mais pour venir au sérieux de ce que vous disiez, je me demandais, mais Les big data, par exemple, ne sont pas nécessairement naturalisation, vous suggérez. Ils peuvent être aussi une connaissance de l'individuel. Ce qui est remarquable dans le big data, c'est le fait qu'on connaît un individu en tant qu'individu, dans ses singularités. Donc, si on veut la sociologie comme connaissance, disons, de typologie, d'idéal type, de classe, est menacée par le big data, non en tant que naturalisation, mais en tant que développement d'une connaissance de l'individuel. Et alors, là, ce serait la menace, mais ce serait aussi la possibilité. Au fond, le type de connaissance directe dont vous parliez peut très bien s'intégrer avec cette autre connaissance très fine, très individuelle qui est permise par les big data. Aussi parce que, par exemple, les big data savent des individus des choses que les individus eux-mêmes ignorent d'eux-mêmes. Et donc, la confrontation entre la manière dont l'individu se perçoit et la manière dont il est à partir de big data serait d'une importance sociologique très ample, mais ce qui vous parle n'est pas un sociologue, donc je ne permets pas. C'était une faible défense de la connaissance. Je suis tout à fait persuadé qu'on ne peut pas prendre l'ordinateur et dire « bien, ça fera la partie des sociologues, c'est comprendre l'ordinateur et dire ça pourra être surroguer l'existence des médecins. » Ce n'est pas tout à fait le cas.
Je vais faire trois réponses, puisqu'il y a eu trois points qui ont marqué mon attention. Le premier, ce sera sur un mode un peu humoristique. Quand quelqu'un se trompe à ce point, la fin du téléphone mobile, la question c'est comment est-ce que cette personne va s'en sortir ?
Il a republié le livre.
Alors, et en écoutant Maurizio, je me suis souvenu de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, c'était un esprit merveilleux. Bon, on n'avait pas besoin d'être d'accord avec lui pour être intéressé par ce qu'il disait. Et un jour, il écrit un article dans Libération et il met comme titre « La guerre du Golfe n'aura pas lieu ». Trois semaines après, les avions américains bombardaient le Koweït, etc. Enfin, ou la partie, les armées koweïtiennes. Enfin, la guerre du Golfe avait lieu. Et 8 jours plus tard, ou 15 jours plus tard, Libération publiait un second article de Jean Baudrillard, la guerre du Golfe n'a pas eu lieu. Et l'article était très intelligent parce qu'il expliquait que c'était pas une vraie guerre, c'était uniquement des trucs électroniques, c'était plus la guerre. Il s'en sortait. Et donc la question qui m'intéressait dans cette question, c'est comment est-ce qu'on se sort ? Moi, je ne saurais pas me sortir d'une bêtise. C'est pour ça que je suis quelqu'un de prudent et de nuancé dans ce que je dis, parce que je me dis que je me garde toujours des possibilités de m'en sortir. Donc voilà, c'était pour dire qu'il faut savoir se sortir. Quand on prend des positions aussi raides, il faut savoir répondre. Le deuxième point, c'est pour aller dans le sens de ce que vous avez dit. Où on peut ajouter même, non seulement ça peut permettre de connaître des individus, mais ça peut permettre de faire apparaître des relations que l'on ignorait. J'étais allé à Stanford, j'ai passé 24 heures là-bas, j'ai rencontré des chercheurs. Et parmi eux, il y en a qui travaillaient sur la République des lettres. Eh bien, en mettant sous forme de, peut-être pas de big data, mais en tout cas un maximum de data dans leurs ordinateurs et en les traitant intelligemment, ils faisaient apparaître des relations au niveau, non seulement de toute l'Europe, mais aussi un petit peu de l'Amérique du Sud ou des États-Unis. Ils faisaient apparaître des réseaux, donc des modes de relations qui n'étaient pas forcément connus. Donc, là, je me fais maintenant l'avocat de ce que les big data peuvent avoir de très constructif. Elles peuvent même permettre de mieux connaître des relations, bien entendu. Le troisième point, c'est là où je trouve qu'il faut se poser vraiment des questions. Imaginons, je suis tout à fait d'accord avec Maurizio, les big data peuvent nous permettre de bien mieux connaître un individu que lui-même se connaît. Mais de deux choses l'une, ou bien je suis cet individu qui souhaite mieux se connaître lui-même, ou bien c'est d'autres qui s'occupent de moi. Et là, à partir de là, on rentre évidemment dans des grands questionnements. qui a le droit de mieux me connaître que moi? Qu'est-ce que cette personne qui va mieux me connaître va faire de cette connaissance et qu'est-ce qu'elle va m'en dire à moi? Si quelqu'un me dit, c'est plus la peine de faire une psychanalyse, il y a bien mieux, on va te dire plein de choses, on sait plein de choses sur toi. Peut-être que ma réaction sera de dire, bah, dites-moi ce que vous savez sur moi, que j'en fasse quelque chose, mais pas forcément. Et donc, qui va avoir la réflexivité possible? Qui va être invité? Autrement dit, ça pose ce genre de questions. Qui maîtrise la connaissance sur qui? C'est là où on rentre dans des grandes questions. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même... J'imagine mal quand j'ai... Enfin, encore que... Regardez, aujourd'hui, beaucoup de gens demandent leur patrimoine... Enfin, demandent d'en savoir plus en envoyant leur ADN à des institutions spécialisées pour connaître leurs ancêtres, etc. Donc, on pourrait très bien imaginer aussi. Puis bien des gens demandent aussi leur astrologie, leur futur. Hein, vous envoyez, je sais pas, la date de naissance, le lieu de naissance, et on vous répond plein de choses se disant sur vous. Bon, on peut très bien imaginer que je dise, écoutez, utilisez les big data pour m'en dire plus sur moi-même. Mais c'est pas tout à fait vers ça que l'on va. On va surtout vers des gens qui ne me mettront pas en position ensuite de réflexivité et dont je ne sais pas forcément pourquoi ils vont accumuler ces connaissances sur moi. Jusqu'au jour où on me dira, c'est parce que tu as un profil de terroriste et que l'administration américaine a besoin de savoir qui a un profil de terroriste. Ouais, c'est ça peut-être aussi un des aspects du problème.
About this big data and the what you're saying about the accumulation of our data about us that we don't know and we don't control and we are not the management of this data is not in our hands. I'd like to recall the concept of digital persona and how we are not aware of our persona in this digital age, in the many layers that it has the implications, from legal implications to the management of this data, to our presence in different kinds of space, and also our ignorance about how to deal with this in the technological level and in how to use devices that can control. And I think the implications of this are so big, are so important, that each discipline has a saying on this. And we need to be, to really have a pluridisciplinary approach, the way you said, because this is a problem that overcomes the possibility of just one discipline to tackle. So I think it's necessary a big movement, like a big bunch of people, a pluridisciplinary approach for this big problem that is the constitution of our persona in this digital age. I'd like to ask you, in your opinion, which could be the next steps towards this management of this data, the big data?
When I was a student, I had a professor who told me, if one day when you finish your studies, you have to work in un service de prévision, ask for long term, because people will not remember the stupid things that you've said. So the next step, very difficult for me to try and give an answer. I don't know what is the next step. But what I see is that many people fear the idea that states, political powers can use this personal data. Other people will say it's a general problem. Many other actors and states can control your life. And it's not only knowledge, it's power. This is to say, an insurance company can decide something. A judge can decide something, and so on and so on. So it will depend on our capacity to improve the democratic idea. And you said different social, is it different social scientists or different disciplines should discuss this? For me, the question is not only a debate between social scientists. For me, it's a highly political issue. And the problem is that this political issue is global. And we can usually face political issues at the national level. How can I do something in front of this issue if I know that anywhere in the world people are able to collect the data in order to make my my profile. In my country, maybe there can be a law and so on. But if those people are in Taiwan or in Buenos Aires, no control. So it's a really huge political issue. But I agree with you, more and more the tendency will be to face issues or problems with pluridisciplinary groups, more and more, because there is no important problem to do today which could be dealt with only by one approach. I agree with you. So don't ask me the next step, and it will, and the next step will be different in a city, in a country, or another one. Tomorrow, if France votes for the National Front, and if we have a strong political power with the National Front, I'm sure that what will happen will not be exactly the same with data that if we have a democratic power. So it's also a question of who is ruling a country. So, sorry, not... Okay. No, no.
Vous expliquez qu'on est dans une époque de résurgence de la question du sujet. En même temps, on entend que, effectivement, les big data permettent de connaître le sujet dans ce qu'il a de plus singulier, de plus éloigné des grands nombres, dans la mesure où la prétention à l'exhaustivité des big data et la non-sélectivité qui préside à leur traitement, la soi-disant non-sélectivité, permet de tenir compte de ce qu'il y a de plus éloigné des grands nombres, de plus éloigné même d'une moyenne qui n'existe plus, puisqu'elle évolue en temps réel, cette moyenne. Donc la question que j'avais, c'est celle-ci. Est-ce que réellement, quand on fait du profilage, est-ce qu'on connaît réellement l'individu mieux que lui-même, ou est-ce qu'au contraire, on ne fait pas complètement disparaître le sujet, dans la mesure où ce qui compte comme sujet pour les algorithmes, ce n'est jamais une personne? C'est un ensemble de données infrapersonnelles réagrégées à un niveau supra-individuel à l'échelle industrielle. Donc ce ne sont jamais que des fragments infrapersonnels d'existence quotidienne, dénués de toute signification singulière, puisque pour traiter des données à grande échelle, pour les rendre calculables, on a intérêt à transformer tous les signes en signaux purement calculables et sans signification. Et donc finalement, ce qui disparaît dans les big data, précisément, c'est tout ce qui compte pour les sujets. Les big data et la prédiction ou l'anticipation permettent précisément de se dispenser, de faire comparaître les sujets pour leur demander quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs intentions. Le marketing de plus en plus intelligent permet d'éviter de demander aux consommateurs ce qu'ils voudraient consommer, puisque ces désirs le précèdent, ils sont fabriqués déjà par avance par les algorithmes de traitement de données de big data. Et donc, est-ce qu'on n'a pas affaire, paradoxalement, alors que vous dites qu'il y a une résurgence de la question du sujet, précisément grâce au big data, à une disparition du sujet?
À un premier niveau, vous avez raison. Vous avez raison. On peut penser que ce sujet qui intéresse tant aujourd'hui les sciences sociales peut disparaître. Bon. Mais moi, j'aurais fait une réponse plus compliquée et qui tient à la difficulté que nous avons de conceptualiser convenablement le sujet. Il se trouve que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question. Et je peux vous dire, je n'ai pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante entre deux conceptions principales que je vais présenter en simplifiant. Mais ça va apporter la réponse à vos remarques. Ou bien vous dites, le sujet préexiste à l'individu comme acteur. Le sujet, c'est une virtualité que chacun de nous possède et qui fait que nous nous construisons, nous sommes créatifs. C'est une virtualité qui existe en amont de l'expérience et en amont de l'action. Ça, c'est une première façon de réfléchir à la notion de sujet, ou de construire un concept de sujet. Et vous avez d'autres conceptions du sujet qui disent « le sujet se construit dans l'expérience ». Il n'est jamais rien d'autre que ce qui se construit dans l'interaction, dans l'intersubjectivité. Alors, si vous êtes, c'est plutôt ma position, du côté d'une première définition du sujet, alors vous avez raison, ce sujet qui est une virtualité, quelque chose qui peut ou non se concrétiser, on peut penser que ce sera très difficile de le faire apparaître dans un profil né de l'emploi de toutes ces technologies. Par contre, si vous dites, le sujet, il est ce qui se construit dans l'expérience, et vous connaissez l'expérience, Vous savez que le matin, j'ai pris mon rasoir, je me suis rasé, que j'ai pris ma brosse à dents, je me suis lavé les dents, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai discuté avec telle personne, j'ai envoyé des mails qui disaient ceci et cela, j'ai pris un rendez-vous chez tel médecin, je me suis arrêté, enfin, etc. Si vous connaissez mes interactions de toute mon existence, là, ce deuxième sujet, si je peux dire, vous pouvez l'approcher déjà beaucoup plus. Et donc, la réflexion presque philosophique, enfin, sur les catégories par lesquelles vous désignez les choses, cette réflexion va apporter la réponse à votre problème plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre. Moi, je pense, alors peut-être qu'on peut même imaginer que vraiment des big data de plus en plus sophistiqués pourront inférer de connaissances du second type, le sujet qui se construit dans l'expérience, des connaissances du premier type. Sur qu'est-ce qu'il y a en amont. Peut-être, après tout. Si, je vous donne un exemple. Si j'arrive à savoir vos lectures, c'est pas difficile ça, surtout si vous lisez beaucoup sur votre écran. Si je connais vos lectures, si je sais les pages où vous êtes arrêté, les endroits que vous avez certainement relus 3 fois, les choses qui ont fait que vous avez saisi un dictionnaire pour que sais-je, ou les liens que vous avez été... Là, je vais pouvoir commencer à rentrer aussi dans le sujet du premier type. Parce que je vais mieux connaître vos sources d'intérêt, etc. Si j'ai accès à vos mails personnels, oui. Donc même le sujet du premier type pourrait un jour être accessible. Mais c'est plutôt le sujet du deuxième, enfin de la deuxième façon de le définir qui me semble plus... Voilà, donc c'est un peu comme ça que je réfléchirais. Donc, vous voyez, en réfléchissant sur le concept de sujet que je veux mettre en œuvre.
Thank you.